Radio-Canada, audio.
Je m'appelle Stéphanie Boulay. Je suis chanteuse, autrice et compositrice. Et vous me connaissez peut-être comme la moitié blonde du duo Les Sœurs Boulay. En juin 2023, sur les ondes d'ici première, j'ai fait pour la première fois en public une révélation à l'animatrice Isabelle Craig. Une révélation qui avait rien à voir avec mon métier d'artiste.
Stéphanie, récemment, donc dans les médias sociaux, on a vu un témoignage. Et tu dis, j'ai reçu récemment un diagnostic qui en a étonné plusieurs, un diagnostic du trouble du spectre de l'autisme. Mm-hmm. Stéphanie, qu'est-ce qui fait que tu es d'abord allée chercher un diagnostic? Il y a un inconfort,
ouais.
Il y a plusieurs
burn-out, des dépressions. Mais après un certain temps, en fait, je pense que c'est lié à la pandémie. En fait, ce moment où tout le monde était désespéré de plus avoir de contacts sociaux.
Oui.
Puis moi, j'ai réalisé que c'était ma meilleure vie, là. Après des années de thérapie, d'errance et de questionnement, cette prise de conscience-là a marqué le début d'une démarche personnelle qui a abouti au diagnostic suivant. TSA, ou trouble du spectre de l'autisme de niveau 1, TDAH, ou trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, en plus de traits HPI ou haut potentiel intellectuel. À 35 ans, ce constat-là m'a fait passer par beaucoup d'émotions. Puis je me suis dit que d'en parler publiquement, ça me permettrait sûrement de réaliser que j'étais pas toute seule.
On découvre avec le temps que souvent les femmes vont être diagnostiquées tard ou jamais, parce que le camouflage va faire partie de notre mode de survie, en fait. Moi, depuis que je suis petite, que je sais qu'il y a quelque chose de pas normal, mais quelque chose... Je me suis jamais sentie comme si je ressemblais aux gens autour de moi. Puis les gens autour de moi me l'ont rapidement fait sentir, à l'école, par exemple. Puis je voulais tellement pas être différente que j'ai développé vraiment le camouflage comme mode de vie. Puis ça, c'est au quotidien, c'est constamment être à l'extérieur de soi, en train de se regarder.
Le surmoi.
C'est excessivement épuisant.
C'est fou, hein? Il y a de la souffrance là-dedans, Stéphanie Boulay.
Ouais, puis j'ai toujours énormément porté de jugement sur ma souffrance parce que je me suis toujours dit, et les gens m'ont rappelé souvent à quel point j'étais chanceuse, j'avais tout. Mais voyons, t'as tout, t'as du talent. Mais pourquoi t'as cette noirceur? Pourquoi t'as ce nuage-là au-dessus de ta tête?
Pour moi, cette sortie publique-là, ça a été une étape importante d'une longue quête identitaire. J'en ai parlé librement par le passé. Malgré les apparences, malgré mon succès et mes privilèges, je me suis toujours sentie inadéquate, anxieuse, hypersensible. Mais ce que je savais pas, et que j'ai su en 2023, après toutes sortes de démarches, c'est qu'il y avait des conditions cachées qui faisaient en sorte que je me sentais comme ça. Il y avait finalement une raison au masque social, à ma peur des gens, au nuage noir dont j'ai parlé avec Isabelle Craig. Je suis neurodivergente. C'est pas une maladie. C'est ni bon ni mauvais. C'est juste que mon cerveau fonctionne un peu différemment de la majorité de la population dite neurotypique. Après cette entrevue-là, j'ai reçu une montagne de témoignages, surtout de femmes, qui m'ont dit qu'elles avaient vécu la même chose que moi, avec toute la souffrance que ça comporte. Une de ces femmes-là, ben, c'est Marie-Pierre Bouchard, la réalisatrice qui signe ce balado. En en parlant ensemble après, en partageant notre vécu, c'est devenu une évidence qu'on avait besoin de faire quelque chose avec ça. C'est un sujet trop important, puis surtout trop méconnu. Ce balado, c'est tout simplement deux femmes qui souhaitent humblement sensibiliser le plus de gens possible à la neurodivergence au féminin. Puis s'il y a des femmes ou des jeunes filles, ou même leurs proches qui nous écoutent et pour qui ça résonne, si notre quête peut donner des pistes de réflexion ou même des réponses à quelqu'un, on aura accompli notre mission. Vous écoutez Apparaître, la neurodivergence invisible. Prologue. Maman,
Ta fille est fatiguée.
C'était ma grande sœur, tu sais, mm-hmm. fait que c'était une relation un peu petite sœur, grande sœur. Waouh, tout ce que tu fais, ça a l'air cool. Je suis en admiration devant toi. J'ai envie de faire partie de ton univers. Fait que de mon point de vue à moi, je pense que je ne ressentais pas de différence.
La personne que vous venez d'entendre, c'est ma petite sœur, Mélanie. Non seulement on a grandi ensemble, mais on se connaît sous tous nos angles. Parce qu'on est amis, qu'on fait de la musique ensemble, qu'on est partenaires d'affaires, puis qu'on a énormément de choses en commun. Quand j'ai commencé à travailler sur ce balado, la première chose que j'ai eu envie de faire, c'est de questionner ma famille, de revisiter des souvenirs d'enfance pour, ultimement, essayer de déterrer des indices précoces de ma neurodivergence.
Je me rappelle que tu m'as appris à lire puis à écrire sur le tableau vert en bas dans le sous-sol. On jouait à l'école. Fait quand je suis rentrée en maternelle, je savais déjà lire. Fait que je devais avoir quoi, 4 ans?
Fait que moi, j'avais 7 ans, ça veut dire.
Ouais.
Une grande sœur qui transmet ses apprentissages, je pense pas que ce soit si inhabituel que ça, pris tout seul. Mais quand j'ai parlé à ma mère, il y a d'autres petits morceaux de casse-tête qui se sont placés.
T'as parlé jeune. Je me souviens des phrases complètes là, avant l'âge de 2 ans. Même, je me souviens, à tous les soirs, on se couchait les deux ensemble, c'était toujours une histoire. Puis là, c'est toi qui choisissais ton livre d'histoire que tu voulais que je te raconte. Fait que je te racontais l'histoire, puis je virais les pages quand c'était le temps. Mais là, à un moment donné, tu devais avoir peut-être 3 ans et demi, je pense. T'es allé sur le voisin en face, puis t'as pris le livre, puis t'as raconté tel quel, puis tu tournais les pages en considération des paroles écrites dans le livre, autrement
dit. Fait que je savais qu'est-ce qui était écrit dans quelle page.
Oui, dans quelle page.
Selon ma mère, je passais tout mon temps à lire, à dessiner, à écrire. Je voulais tout comprendre. J'avais une curiosité insatiable. Il paraît aussi que j'aimais vraiment pas ça être en groupe, ni aller dormir ailleurs. Mon temps toute seule dans ma chambre, avec mes livres puis mes cahiers, c'était l'affaire la plus importante pour moi.
Je me rappelle que ben, tout ton monde intérieur, je pense, était vraiment comme développé. Tu avais un journal intime, t'écrivais des poèmes vraiment, vraiment jeune. Tu me lisais ça, puis j'étais comme « Wow! » Je me rappelle que maman, des fois, insistait pour que tu sortes dehors, puis ça te tentait pas. T'avais jamais envie de rien faire, mais t'avais quand même des amis.
Oui, j'avais des amis. Mais j'ai toujours trouvé que les échanges sociaux, ça drainait mon énergie. Peut-être parce qu'à plein de moments, sans le vouloir, on m'a fait sentir que j'étais différente ou inadéquate. C'était des tout petits commentaires, même pas méchants ni mal intentionnés, mais qui ont teinté ma perception de moi-même. J'étais trop, trop intense, je parlais trop comme dans les livres, j'étais trop maladroite, je me pensais trop bonne. C'est comme ça que j'ai senti que dans la vie, il fallait que je fasse semblant. Je me souviens des matins d'école, quand je sortais de la maison pour aller prendre l'autobus. Je me mettais en mode parfaite. Je mettais mon masque. Non, j'étais pas rejet. Mais aucune de mes amies savait comment je me sentais vraiment.
Tout ce que tu vivais, tu mettais ça dans ton journal intime.
Oui.
Tu te repliais souvent dans ta chambre aussi.
Puis ma perte de poids, tu t'en rappelles-tu?
Oui, ta perte de poids. T'as de la misère à manger, puis...
Puis je me rappelle que toi, ça t'inquiétait vraiment beaucoup.
Oui, ça m'inquiétait, ça.
Les états dépressifs puis les troubles alimentaires, dans mon cas, ça a commencé bien avant l'adolescence. Je me sentais tellement bizarre puis incomprise, tellement toute seule, tellement fatiguée, que des fois, j'avais même plus envie de vivre. Mais j'ai été vraiment chanceuse aussi, parce qu'il y a les arts qui sont entrés dans ma vie dès l'adolescence. Avec la création, j'ai trouvé un véhicule pour me comprendre, pour m'exprimer, mais aussi pour exister socialement. Mais malgré ça, je suis restée mal dans ma peau. Pendant des années, j'ai supplié tous mes psys de me donner des réponses. Est-ce que j'étais bipolaire? Est-ce que j'étais borderline? Mais personne n'a jamais conclu que j'avais un trouble de la personnalité. On a mis ça sur le dos de l'anxiété et de l'hypersensibilité. J'ai continué à me sentir poche, coupable, surchargée, comme si je n'étais pas capable d'être heureuse, alors que j'avais tout pour l'être, alors que j'avais autant de privilèges. En 2022, dans un pic de symptômes d'épuisement, j'ai publié un texte dans le recueil « Stress pas minou », un collectif portant sur l'anxiété publié chez K.O. Éditions. J'y témoigne de mes difficultés sociales. Je vous en lis un extrait. Mes portes sont barrées la plupart du temps, même en plein jour. Je réponds jamais aux appels. Je suis profondément seule, je le suis depuis toujours. J'ai eu et j'ai encore des amis, des amoureux. Mais avec moi, rien ne dure et ma position neutre reste toujours la solitude. Les gens me fatiguent, les gens me vident de mon énergie. Puis, quand je me retrouve isolée pendant des jours sans que personne m'appelle, je pleure en me demandant ce que j'ai fait pour mériter d'être si abandonnée. Mais si le téléphone sonnait au même moment, je répondrais même pas. Après la publication du recueil, une femme que je connaissais pas, une lectrice, m'a écrit un mot sur les réseaux sociaux. Ça disait
« J'ai toujours été touchée par tes textes et je me suis souvent reconnue dedans. L'an passé, j'ai été diagnostiquée autiste à 24 ans. J'ai souvent hésité à t'écrire à ce sujet de peur que tu le prennes mal, mais je vois beaucoup de traits de neurodivergence dans ce que tu décris. »
Sur le coup, je me suis dit « Ben non, voyons donc. » Personne ne m'avait jamais parlé de ça. Ni mes profs, ni mes psys, ni ma famille, ni mes amis. J'ai pensé, si j'étais vraiment neurodivergente, quelqu'un l'aurait vu avant, non? J'ai quand même pas pu résister à me documenter sur le sujet. Au fil de mes lectures, j'ai appris que le cerveau des personnes neurodivergentes est câblé différemment de la norme. Puis ça, ça entraîne une toute autre perception de l'environnement, avec ce que ça comporte de force, oui, mais aussi de défi. Ça peut être très prononcé, et se voir tout de suite, mais ça peut aussi être subtil, au point d'être imperceptible vu de l'extérieur. Donc, les stéréotypes qu'on a sur l'autisme et le TDAH, ça ne représente pas l'ensemble du portrait. C'est beaucoup plus nuancé que ça, beaucoup plus complexe. Surtout en ce qui concerne les filles, les femmes et les personnes de la diversité de genre. Dans ce balado, d'ailleurs, on fera surtout référence au profil féminin, mais c'est super important de préciser que le sujet des sous-diagnostics, ça concerne aussi les femmes trans, les hommes trans et les personnes non-binaires. En fait, c'est que la neurodivergence, ça se manifeste souvent de façon différente selon plein de facteurs, dont le genre. Donc, avant que les scientifiques se rendent compte de ça, les filles ont été sous-diagnostiquées ou mal diagnostiquées par rapport aux garçons. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus de femmes adultes vont se faire évaluer et découvrent qu'elles sont autistes ou qu'elles ont un TDAH, ou tout ça en même temps. Ces diagnostics sur le tard, dont certains disent qu'ils sont juste des étiquettes ou des modes, ben c'est souvent le morceau manquant du casse-tête d'une identité malmenée, mêlée, qui demandait juste à apparaître, enfin. C'est donc, grâce au message de cette lectrice inconnue, que je suis partie à la recherche de la réponse que je cherchais depuis tout ce temps-là. C'est vraiment pas la réponse que j'aurais imaginé recevoir un jour. Mais c'est celle qui, je pense, explique tout. Puis contre toute attente, c'est celle qui a finalement réussi à m'apaiser.
qu'est-ce qu'il change et qu'est-ce que ce diagnostic-là, Stéphanie Boulay, qui nous étonne, en tout cas qui moi m'étonne?
Bien, qui m'étonne moi aussi. En fait, à tous les jours, je me lève puis je me dis, est-ce que je le prends, ce diagnostic, ou est-ce que je le rejette? Avant, on utilisait le terme Asperger pour faire justement une séparation entre les autistes plus lourdement autistes, oui, par exemple, et les autistes plus fonctionnels.
Oui, et là, c'est pour ça que moi, je découvre aussi là, ce trouble dans sa facette plus légère.
C'est un spectre, en fait. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, des fois, quand j'en parle, je décide d'utiliser plus neuro-épicé, neuro-diversité. On dirait que je me reconnais là-dedans. Puis il y a comme une étape de franchie pour m'aider à être plus authentique.
Là, je vais vous avouer quelque chose. Ça m'arrive encore des fois de pas avoir le courage d'assumer pleinement ma neurodivergence. Parce que ça paraît pas, justement. Comme récemment, par exemple, je me suis retrouvée hospitalisée pour une infection. Puis pendant que j'étais en attente, j'ai eu ce qu'on appelle un meltdown, un effondrement. Ça, c'est quand on se retrouve surchargé par les stimuli de l'environnement au point où on entre en état de crise. Je suis revenue sur cet incident-là avec ma sœur.
Quand là, tu as eu ton meltdown à l'hôpital, là, est-ce que tu as dit au personnel hospitalier comme « je suis autiste, je suis en meltdown »
J'ai dit « je suis en surcharge, je viens de faire une crise », j'ai dit « de panique ». J'ai pas dit un meltdown, je pense que j'ai dit une crise de panique. J'ai dit « le bruit, la lumière ». L'incertitude, pas savoir qu'est-ce qui se passe avec moi, pas savoir quand est-ce que je sors, ça me rend folle. J'ai besoin comme de contrôler mon environnement. J'ai pas dit je suis autiste, mais j'ai dit de quoi j'avais besoin pour me sentir mieux.
Puis pourquoi tu le dirais pas?
Parce que j'ai trop peur de me faire regarder en voulant dire ben voyons, ça paraît pas.
Mais tu trouves pas que c'est un problème en soi, ça?
Oui, vraiment.
Tu sais, comme on parle du but de ce podcast-là, mais entre autres choses, faire comprendre aux gens ce que c'est, justement, pour arrêter de... Tu sais, ce fameux « ben voyons donc, ça paraît pas, donc tu dois pas l'être », tu sais.
C'est tellement un bon point, là.
Une des particularités du profil féminin de la neurodivergence, qu'on parle de l'autisme de niveau 1 ou du TDAH, c'est qu'il est généralement plus internalisé ou plus camouflé, parce que les filles et les femmes ont souvent développé des mécanismes compensatoires. Mais ces stratégies-là, elles se font souvent au détriment de notre santé mentale. Parce que ça demande énormément d'énergie, essayer d'avoir l'air normal. Je pense que le moment est venu de faire connaître le profil féminin de la neurodivergence, d'ouvrir la discussion et de défaire des préjugés. Si moi, j'ai eu l'impression de trouver une réponse cruciale en recevant mes diagnostics, j'espère que ce balado pourra être une main tendue vers d'autres femmes qui souffrent et qui cherchent à mieux se comprendre pour mieux avancer, peu importe leur âge ou leur trajectoire. Et pour brosser le portrait le plus représentatif possible de ce qu'est la neurodivergence au féminin, j'ai rencontré d'autres femmes qui ont vécu des quêtes similaires à la mienne. Je suis vraiment reconnaissante qu'elles aient accepté de partager leur histoire avec moi, avec autant de vulnérabilité et d'authenticité.
Tu sais, je me disais, hey, je vais écrire un livre, là, puis ça va être écrit dessus, je suis pas folle.
Moi, je pensais que c'était bipolaire à un moment aussi, là.
Je veux juste qu'on me dise que c'est pas dans ma tête.
Les gens qui connaissent pas ça, ils vont avoir un certain jugement.
C'est pas une excuse. C'est pas une fatalité, c'est vraiment une explication.
Il y a comme un processus après d'être diagnostiqué de se réconcilier avec soi-même.
Personnellement, j'aurais aimé le savoir plus tôt.
J'aurais peut-être lâché le sentiment d'imposteur plus rapidement.
Si on défait les clichés, puis on déstigmatise tout ce qui existe autour de la neurodivergence, on sort des étiquettes.
Dans le prochain épisode, on décortique ce qu'est la neurodivergence et les particularités reliées au genre. Et on essaie de comprendre pourquoi et comment les filles et les femmes ont si longtemps été ignorées par la neuroscience.
On est encore beaucoup dans les stéréotypes. On commence à comprendre le profil féminin. Je vous vois entrer aujourd'hui, c'est pas écrit dans votre visage. Quelqu'un qui connaît pas le profil féminin va jamais évoquer, imaginer, parce que ça se voit pas, ça se vit de l'intérieur. Maman.